Chez Lillois, is empty. Thanks
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence pour une émission surtout musicale qui sera consacrée à un mouvement punk féministe des années 90, les Riot Girls, à partir d'un bouquin plutôt intéressant de Manon Labrie qui s'intitule Riot Girls, justement, chronique d'une révolution punk féministe qui a été publiée chez La Découverte dans la collection Zone. Je le dis parce que Zone se présente a priori comme une espèce d'éditeur indépendant, sauf qu'en fait c'est une collection. Et donc c'est une collection de La Découverte. Donc bon, pour une fois on fait pas dans l'éditeur complètement indépendant. Voilà, vous venez d'entendre deux morceaux de punk féministe préhistorique, enfin ou du moins pré l'histoire qu'on veut un peu vous présenter ce soir rapidement. Donc c'est le premier morceau, c'est un morceau de Joan Jett qui date de 1980, qui s'intitule Bad Reputation, et qui Joan Jett étant un ancien membre du groupe Les Runaways, qui avait sévi pendant 4 ans, entre 75 et 79, et un groupe qui a aussi été l'inspirateur justement du mouvement Riot Girls, et en particulier d'un de ces groupes qui s'appelle Bikini Kill. Voilà. Et le deuxième groupe, c'était Mechanormal, un groupe canadien. Alors, le morceau s'intitule Strong White Male, et c'est un morceau de 87. Voilà, c'est pareil, ça fait partie de des précurseurs du féminisme punk. Donc voilà, ce bouquin, je vais pas vous le résumer, on va surtout écouter de la musique, mais je l'ai trouvé pas mal parce que c'est toujours un peu compliqué quand de voir que les choses qu'on écoutait à 20 ans deviennent des sujets de thèse, des sujets de livres, mais bon, c'est comme ça. Et mais justement, le ton est plutôt sympa. Et elle met le doigt sur pas mal de choses intéressantes dans les mouvements féministes, en particulier dans les mouvements féministes punk. Et elle n'est pas toujours, laudative. Elle peut aussi avoir un peu de critique, mais malgré tout, bon, ça reste une présentation empathique du mouvement. Donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est que les Riot Girls? Bon, évidemment, grosse question. Ça part de trois groupes essentiellement: Bikini Kill, Even to Betsy et Bratmobile. Et ces trois groupes qui sont constitués majoritairement de nanas. Sauf dans Bikini Kill, je crois qu'il y a un guitariste. Sinon, c'est trois filles. Et c'est des filles qui sont réunies en se disant, nous aussi, on veut faire de la musique. En gros, c'est arrête d'admirer le mec qui est sur scène, deviens la meuf qui est sur scène. Et il faut voir que c'était pas forcément évident parce que vous avez parlé il y a quelques années de ça, enfin il y a quelques années, ouais, maintenant ça commence à faire quelques années, d'un autre bouquin qui s'appelait Going Underground de George Urshela, qui était consacré justement au mouvement punk hardcore américain des années 80. Et dans cette culture, dans cette sous-culture très minoritaire, il faut pas s'imaginer que les autres minorités sont forcément bien accueillies. En particulier, les homosexuels n'étaient pas forcément bien. Les filles avaient un surnom, c'était Coat Hangers, c'est-à-dire porte-manteau. C'est-à-dire que globalement, les filles allaient au concert punk pour porter les manteaux des mecs qui allaient pogoter. Et elles étaient censées être groupies, être les cruches des coulisses ou les cruches du fond de la scène. Mais elles n'étaient pas censées être sur scène. Et donc les filles qui montent sur scène, c'est une petite révolution dans ce milieu-là. ça a produit pas mal de remous, elles se sont pris pas mal de tartes dans la gueule, au propre comme au figuré, sans doute. Mais elles ont fait des chansons intéressantes et plutôt énergiques, qui parlent de cette colère, de ce qu'elles ont vécu et de ce que personne ne voulait entendre à l'époque. Savoir aussi abus sexuels, viol, comment dire, tout un tas de trucs sympas comme ça, dont les mecs parlent pas forcément dans leurs chansons, parce que ça les concerne pas, évidemment. Donc voilà, on va vous passer quelques morceaux de tout ça pour vous faire revivre cette période qui se situe globalement, pour situer les choses, au début des années 90, au moment où la culture underground américaine est un peu secouée par l'ascension fulgurante de Nirvana, sachant que Kurt Cobain avait été lié à tous ces gens-là, à tous ces groupes Riot Girls. Et Kurt Cobain, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, c'est le chanteur emblématique de Nirvana qui s'est suicidé en 95, si mes souvenirs sont bons, dans ces eaux-là, en même temps que Barry Gauvois. Il y avait peut-être un lien secret chez les Illuminati, allez savoir. Donc voilà ce que vous pouvez vous dire en présentation rapide. Et là, on va écouter un petit peu de Bikini Kill. Yeah! Bonsoir, vous écoutez toujours Radio Libertaire 89.4, c'est Jeudi Noir qui se poursuit. Et là, vous venez d'entendre deux morceaux donc, de Bikini Kill. Le premier, donc, c'était New Radio, et le second, c'est Rebel Girl. Le second est très très connu, je vous indique un petit peu les paroles, parce que le livre là dont je vous parle, qui s'intitule Riot Girl, chronique d'une révolution punk féministe de Manon Labrie, propose une traduction, parce que c'était devenu une espèce d'hymne non officiel de la nation internationale volontairement non proclamée des girls. Donc cette fille pense qu'elle est la reine du quartier, elle a le tricycle le plus sexy du quartier. Cette fille, elle porte la tête si haute, je pense que j'ai envie d'être sa meilleure amie. Fille rebelle, tu es la reine de mon monde. Fille rebelle, je pense que j'ai envie de te ramener chez moi et d'essayer tes habits. Quand elle parle, j'entends la révolution. Dans ses hanches, il y a la révolution. Quand elle marche, la révolution arrive. Dans son baiser, je goûte la révolution. Cette fille pense qu'elle est la reine du quartier. J'ai une info pour toi, elle l'est. Ils disent que c'est une salope, mais je sais que c'est ma meilleure amie. Donc ça c'est la petite, c'est cette chanson là que vous venez d'entendre. Et bon, il y a vraiment l'idée, comment dire, de mettre en avant tous ceux que globalement la culture mainstream, ce qui était un des grands enjeux de l'époque. De mettre en avant tous ceux que globalement qu'on ne voit pas, tous les invisibles, tous les tocards, tous les ratés. Et donc cette chanson est là pour ça aussi, dire voilà, cette fille que tout le monde pense minable, que tout le monde pense salope, que tout le monde pense ceci, que ben c'est la reine du quartier. Et pourquoi? Parce que c'est elle qui porte la révolution. Et quelle révolution? Alors ça, j'y reviendrai plus tard. Parce que les Riot Girls, justement, ont aussi pas mal réfléchi là-dessus. Cette révolution, elle est à la fois elle est portée par des désirs anticapitalistes, antipatriarcales, antipatriarcaux et antiracistes, tout un tas de choses. Alors elles n'ont pas forcément réussi à mêler toutes ces luttes, mais en tout cas c'était le but, et ce but était conscient. Et c'est important de le dire. Alors qui sont les Bikini Kill, puisque je vous ai mentionné les paroles de la chanson là, Rebel Girl. Donc vous avez Toby Vail, Kathleen Hanna et Kathy Wilcox. Et alors comment est-ce qu'elles se sont rencontrées, comment elles se sont formées? L'idée c'est que elles se rencontrent à un concert qui est joué chez des amis. C'est une pratique assez répandue dans la ville d'Olympia, qui se situe dans l'État de Washington, pardon. Et ce groupe, c'est un groupe que nous on écoutait à l'époque, qui s'appelle Babes in Thailand. Et donc là je vous cite le livre. Et puis par une belle nuit, 16h30 sans doute, pluvieuse et probablement sans alcool, comme le Pacifique Northwest seul en a le secret, après un concert, autour d'un feu de camp au milieu des ratons laveurs et des mouettes OGM surdimensionnées, la première étincelle a lieu entre les trois futurs acolytes. Ou la deuxième étincelle, ou la troisième. La chronologie est floue, et de toute façon, peu importe. On a déjà dit qu'une partie de tout cela n'était pas plus vrai que le reste. Le concert, tiens, c'était Babes in Thailand. Kathy Wilcox se souvient que c'était sans doute en 1989, et c'est comme ça que le raconte Kathleen Hanna. On a vraiment accroché parce qu'on était d'accord sur le fait qu'on venait juste de faire l'expérience d'une chose incroyable, une chose qui change une vie. Ce concert, Kat Bjelland jouait mieux de la guitare que Greg Sage des Vipers, elle portait une petite robe et un grenet dans les cheveux, et elle était si belle et si fucked up, elle faisait les trucs les plus dingues avec sa voix. Laurie Barbero tapait plus fort sur sa batterie que n'importe qui que j'ai jamais vu jusqu'ici, et Michel Léon était méga sexy, tout en sachant vraiment jouer de la basse. J'étais genre, wow, tu peux vraiment avoir la totale. Tu peux vraiment faire cette musique incroyable, où tu démontres à quel point la colère peut être belle. Et je reviendrai sur la colère, parce que ça c'est un truc important. Et elle ajoute, après on est allés dehors, il y avait un feu. Je ne connaissais pas vraiment Toby et Cathy, mais on s'est retrouvés toutes les trois ensemble, parce que les autres gens disaient qu'ils avaient détesté le concert et que le groupe était mauvais. C'était des femmes éblouissantes, mais ce n'était pas la chose la plus importante pour nous. Ce qu'il était, c'était vraiment la musique. C'était aussi le fait que c'était des femmes et qu'elles avaient le look qu'elles voulaient. Elles n'avaient pas besoin de cacher le fait qu'elles étaient des femmes pour pouvoir jouer une musique aussi intense. La combinaison de la féminité et de la force de la musique, pour dire que la féminité et la force ne sont pas des opposés. C'était une expérience vraiment intense. Toby, Cathy et moi, on était genre, c'est le meilleur truc qu'on ait jamais vu. Tous les autres pensaient que c'était le pire truc. Il est donc devenu clair qu'on allait monter un groupe ensemble. Voilà, il y a eu ça, et puis après la batteuse Toby Vail avait un fanzine qu'elle distribuait comme ça, comme elle pouvait, et je crois Jigsaw Puzzle, et c'est à partir de ça que le mouvement s'est monté. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était pas seulement des groupes de musique punk, c'était aussi des fanzines, c'était des idées qui circulaient, et on y reviendra peut-être un peu plus tard, c'était aussi des réunions, des femmes qui se réunissent, et ça devait être, c'est pas l'invention, mais en tout cas c'était des réunions non mixtes, et elles se réunissent et elles parlent des problèmes qui les occupent, et elles font des ateliers, genre atelier de self-défense, atelier sur le sexisme, atelier sur ceci, atelier sur cela. Donc c'est plus que, c'est pas, oui, il y a aussi un mouvement militant derrière, tout à fait assumé, tout à fait conscient et de ce point de vue-là très intéressant. Voilà, donc j'ai assez parlé, on va repasser à la musique et maintenant on va écouter un des deuxièmes groupes emblématiques de cette mouvance, Bratmobile.
You said I'd be blue if I fell in love with you.
Fuck your fans! 1, 2, 3, 4!
C'est Jeudi Noir sur Radio Libertaire qui se poursuit. Vous venez d'entendre deux morceaux de Bratmobile. Alors oui, José m'a fait remarquer que j'avais oublié quelque chose d'important, c'est que les deux morceaux de Bikini Kill que vous avez entendus tout à l'heure ont été produits par Joan Jett. Joan Jett qui était celle des Runaways et qui, curieusement, n'est pas du tout mentionnée dans le livre de Manon Labrie dont on se sert ce soir, Riot Girl, chronique d'une révolution punk féministe. Mais voilà, c'est important de souligner quand même aussi la continuité dans ce genre de choses. Les mouvements revendicatifs militants ne sortent pas de nulle part, en général ils ont une histoire et il y a des transmetteurs comme ça de relais. Bon, là c'est Joan Jett qui joue en partie le rôle. Donc sinon vous venez d'entendre Bratmobile, donc le deuxième groupe des deuxièmes groupes fondateurs du mouvement des Riot Girls. Et alors, petite histoire assez rigolote, c'est comment il a été fondé. En fait, c'était des filles qui, pareil, se faisaient chier dans la banlieue américaine de l'État de Washington. Et elles sont fascinées par tout le mouvement underground et toute la musique punk qui a lieu non loin de chez elles à Olympia. Donc elles y vont, elles écrivent, elles font aussi leur fanzine, évidemment, et qu'elles publient, et puis elles passent leur week-end à Olympia, et elles prétendent, elles disent qu'elles ont un groupe. Mais elles n'ont jamais touché une guitare, en gros. Et jusqu'au jour où quelqu'un d'assez important dans cette histoire, mais si j'en parlerai peu, Calvin Johnson, les appelle pour leur proposer un concert avec Bikini Kill. Et aussi un autre groupe que je connais pas, Some Velvet Sidewalk. Et c'est en 91. Et bon, elles se démontent pas. bien qu'elles n'aient jamais touché d'instrument de leur vie, qu'elles ne soient jamais lancées dans la composition. Elles n'ont qu'un mois pour constituer une setlist, qu'une pauvre guitare ait de la gueule, mais elles acceptent de se produire devant la crème de l'underground du Pacifique Nord-Ouest. Une profession féministe en soi. Donc c'est comme ça que va se fonder Bratmobile. Et alors Calvin Johnson, pourquoi est-ce qu'il est relativement important? C'est parce que c'est le propriétaire de K Records, et c'est aussi une des figures assez majeures de tout l'underground américain des années 80. Et il sera dans un groupe qui s'appelle Beat Happening, qu'on a déjà diffusé sur les ondes, qu'on aime beaucoup. Et il est un petit peu au centre c'est un réseauteur fou. Et il connaît tout le monde dans ce milieu-là, et il organise des trucs, il est assez incorruptible, il est politiquement plutôt engagé, et j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, Bratmobile, vous sentez le premier morceau, il y a bien la rage aussi, et le deuxième m'a fait penser justement à Beat Happening en termes de compo et tout. Si jamais vous voulez comparer, vous pouvez voir. Et sinon, oui, je voulais revenir un petit peu rapidement sur la colère des féministes, parce que ça fait partie des choses qu'on reproche à tous les opprimés, en gros, d'être en colère. Et donc, quand une femme est en colère et qu'elle le dit, en général, il y a environ... elle a un espace de 30 secondes avant d'être traitée d'hystérique. je pense que c'est une moyenne qu'on peut faire. Et justement, Manon Labrie, dans le bouquin Riot Girls, a un petit paragraphe sur la colère que j'aime bien, et au sujet justement des Riot Girls, pourquoi est-ce qu'elles étaient en colère comme ça. Et donc elle écrit: leur musique comme leurs écrits sont parfois une question de survie, et c'est aussi pour cela que la première génération de musiciennes Riot Girls est dans un premier temps si en colère et autant dans la confrontation. Cette frustration, elle s'est accumulée pendant tant d'années qu'elle s'est quasi inscrite dans le patrimoine génétique. Quand la musulière tombe, forcément les vannes s'ouvrent violemment avant de se réguler. Cette colère purulente et cathartique, elle est inévitable, et c'est la première étape d'une reconstruction. En sus, et puisque personne n'a jamais rien voulu savoir, il faut bien taper du poing sur la table, il faut bien donner le premier grand coup sonore de marteau avant de pouvoir enfoncer le clou derrière, de manière plus discrètement régulière. Si elles peuvent surprendre ou déranger de prime abord, cette rage et cette appréhension très crue du sexisme sont avant tout une manière de mettre les choses à plat, d'exprimer au sens étymologique du terme, de presser pour faire sortir, une noirceur qui brille des énergies et qui serre les gorges. Donc, voilà, une petite justification de la colère. Et justement, dans le passage des Bikini Kill que je vous avais cité tout à l'heure, où elles expliquent comment le groupe s'est formé, il y a justement cette mention de la colère. Comment est-ce qu'on peut faire de la musique et être belle et être en colère? Donc, voilà pour un petit peu tout ça. On va passer au troisième groupe, troisième groupe un petit peu emblématique des Riot Girls, qui se nomme Evans to Betsy. Et voilà, deux autres groupes, enfin deux autres morceaux, pardon. Et voilà, on écoute ça.
What this
C'est Jeudi Noir sur Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Alors on me dit en régie que je parle un peu trop vite, je vais essayer de ralentir le débit, mais je voudrais tellement qu'on écoute de la musique que bon, j'ai tendance à accélérer le truc. Donc là vous venez d'entendre Evans to Betsy, ça va nous permettre d'aborder un des thèmes que je voulais aborder ce soir. Donc le premier c'était White Girl et le deuxième c'est Terrorist. Comment ce groupe s'est formé? Alors ça, c'est encore une histoire assez rigolote, mais assez typique finalement de la scène do it yourself punk américaine, que ce soit masculine ou féminine, viriliste ou féministe. Et je pense qu'on peut, c'est comme ça. C'est que justement le fameux Calvin Johnson dont je vous ai parlé tout à l'heure, le propriétaire, je sais pas si le propriétaire, le fondateur de Kay Records, avait organisé en août 91 une International Pop Underground Convention où il invitait globalement tous les gens de son réseau underground. Alors pour vous donner un petit peu le ton, je vous lis une partie de son manifeste, le manifeste de la convention, enfin du festival. Tandis que l'ogre corporate, donc en gros c'est les majors, étant son influence rampante sur les esprits de la jeunesse industrialisée, le temps est venu pour les rockers internationaux du monde de se rassembler pour célébrer notre indépendance. Donc bon, aparté, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu la vie politique américaine, les rockers internationaux du monde, c'est une référence transparente aux... c'est quoi déjà, j'oublie, les travailleurs de l'industrie du monde, le syndicat anarchiste américain. Donc, parce que cette société est malade et requiert désespérément des effusions de sang, des trottoirs de poussière et des déflagrations de pop-punk. Parce que l'ordre corporate a infecté la communauté créative de sa peste noire de servitude contractuelle. Parce que nous sommes les creuseurs de tombes qui ont enterré le spectre gris du mythe de la rockstar. Parce que nous sommes les inadaptés et que nous aurons notre moment. Nous ne disparaîtrons pas. Olympia, État de Washington, est le lieu. Un double shot de hanche internationale qui se balance et le but. Les barbecues, parades, boom, pique-nique et hurlements sauvages du rock'n'roll adolescent sont les moyens. La révolution est la fin, la révolution est le début. Entrée interdite au laquais de l'ogre corporate. Donc, et ça va être ouvert, ce grand festival, enfin grand. Pour ceux qui connaissent, le setup est assez fou. Vous avez Beat Happening, les Melvins, Mecha Normal, Bikini Kill, Unwound, Some Velvet Sidewalk, Seven Years Beach, Courtney Love, un groupe, hein, pas l'ex de Kurt Cobain. Quoi d'autre encore? Fugazi, Nation of Ulysses, qui est aussi important dans cette histoire, mais bon. Al Japanese, Jad Fair et tout et tout.
C'est bien Courtney Love, l'ex
de... Oui, je sais, mais ici. Ouais, d'accord. Donc là, José précise que l'auteur s'est trompé ici. Ce serait bien Courtney Love, l'ex.
Tu penses?
Toi, t'as l'album en plus, t'as l'album de ça. Oui. Donc bon. Alors, le truc, c'est que bah justement, le festival va être ouvert par une vingtaine de groupes qui sont tous plus ou moins affiliés au punk féministe de l'époque. Et là-dedans, ça va être l'occasion. Il y a des groupes qui vont se créer à l'occasion. Donc, le groupe que vous venez d'entendre, Evans to Betsy, qui se forme ce soir-là, enfin un soir comme ça, et qui va donner des choses plutôt sympas, je trouve. Ça fait partie des... C'est une bonne claque. Elles sont bien en colère et ça s'entend. Donc, et en particulier, ouais, la chanteuse Manon Labrie commente « Moi, j'entends tout le temps l'un des coffres les plus puissants des années 90 à faire péter la plus solide des cristalleries de Bohème, tellement puissant que des fois il énerve au sens premier, il te fout les nerfs hors de ta chair. » Il suffirait que ton voisin sonne à ce moment-là pour te demander un œuf et ce serait le fait divers. Donc, plein de petits passages très très sympas comme ça dans le bouquin de Manon Labrie sur la chronique donc, d'une révolution punk féministe. Et alors aussi, donc, au sujet donc, de ce morceau d'Evans to Betsy, White Girl, le premier qu'on a passé, un des gros reproches qu'on a fait au mouvement des Riot Girls, c'est d'être constitué uniquement de blanches middle class. Et alors maintenant, Labrie prend cette objection de front et elle en parle. Et justement, White Girl s'est consacré à ça, s'est consacré à ce problème. C'est-à-dire, en gros, tu voudrais être arrêté, tu vas dire, tu voudrais changer le monde, mais toi-même, tu es raciste et il faut que tu travailles ça. Donc commence par changer ton propre racisme pour pouvoir changer le monde. Et donc c'est un reproche qui a souvent été adressé aux Riot Girls, mais de l'extérieur. Mais ce que Manon Labrie montre un peu, c'est intéressant dans son bouquin, elle montre qu'en fait c'est un reproche qui a été fait très très tôt de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elles étaient conscientes des limites de leur mouvement, et elles se demandaient comment dépasser ces limites. Et ce que j'ajoute, Manon Labrie, à ce sujet aussi qui est assez intéressant, c'est qu'à dire, ou à trop dire, que c'était un mouvement de petites blanches, de la classe moyenne, on oublie qu'en fait il y a aussi pas mal de blacks, d'asiates et d'autres nénettes qui sont intégrées au mouvement des Riot Girls, sauf qu'elles étaient moins médiatisées. Parce que la médiatisation ici a joué un rôle massif. C'est-à-dire que, à la suite d'une convention organisée par les Riot Girls à Washington, la presse mainstream s'est jetée sur le mouvement, a commencé à vouloir à tout prix interviewer ses membres. D'autant plus que, ce qu'il faut voir, c'est que, je l'ai pas trop mentionné, enfin si, c'est apparu plusieurs fois, mais l'un des gros fantômes de cette histoire, c'est Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. Parce que, il était par exemple, c'était l'ex de la batteuse de Bikini Kill. Et ils se connaissaient tous. Et bon, il était encore vivant, il commençait à devenir une énorme célébrité, il avait vendu 4 millions d'albums, c'était un truc de fou, surtout que lui, il partait vraiment du milieu underground. C'était pas du tout, il était pas parti pour être une rockstar, Cobain. Il est devenu, il a accepté de l'être, et il en a payé le prix. Mais c'était pas ça son but. Sauf que quand il est devenu célèbre, on a commencé à s'intéresser aussi à ses contacts. Alors pour certains ça leur a profité, mais les Riot Girls, elles, qui de leur côté mener un mouvement à la fois politique et musical, bah ça leur est tombé dessus sur la gueule, mais comment dire, comme une enclume, quoi. C'était un truc assez affreux. Et donc on leur a fait tous les reproches possibles et imaginables, et donc y compris celui d'être comment dire, bon, on a fait perdre le Bikini Kill, la chanteuse, elle était stripteaseuse. C'est ce qui lui permettait de gagner son fric. Bon, et comme ils l'ont mise en avant, qu'ils en ont fait une espèce de leader, ça lui fait pas son boulot. Enfin bon, bref, c'est un truc assez atroce. Comme histoire, la fin et la façon dont les médias s'en emparent. Mais bon, ce qui a été médiatisé de ce mouvement, c'était effectivement la frange blanche, petite bourgeoise, et qui avait la rage. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y avait tout un tas d'autres femmes aussi qui se mobilisaient et qui voulaient s'intégrer dans ce genre de mouvement et qui correspondaient pas à ce stéréotype. Et peut-être que comme d'habitude, les femmes sont invisibles, y compris dans les mouvements musicaux contestataires. Il y a des invisibles parmi les invisibles. Donc vous avez la femme blanche, elle est invisible parmi les musiciens blancs. Et puis après, vous avez la femme noire qui, elle, va être encore plus invisible, y compris parmi les femmes blanches musiciennes. Donc voilà pour les trucs. Et puis le morceau White Girl d'Evans to Betsy s'adresse un petit peu à ce problème-là. Ah, donc maintenant on va passer à d'autres groupes, et puis voilà, qu'on va écouter. Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est jeudi soir qui se poursuit.
Jeudi noir.
Oula. Donc jeudi noir, consacré à un livre de Manon Labrie qui s'appelle Riot Girls, chronique d'une révolution punk féministe. Donc édité chez Zone. Et là, donc là, on est sorti un petit peu du, comment dire, de l'objet de son livre à elle, parce qu'on a, on a voulu l'élargir. Là, vous entendez deux groupes dont elle ne parle pas. C'est Excuse 17 et Slant 6. Le premier morceau s'intitule, Excuse 17 s'intitule Despise, il est de 94. Et l'autre c'est Slant 6, c'est Semi Blue Tile. Alors le deuxième groupe, José l'a choisi parce que, en fait, il appartient à la deuxième, comment dire, au deuxième centre de gravité de, du mouvement Riot Girls, c'est qui est Washington, mais pas l'état de Washington, Washington DC, la ville de Washington. C'est donc, il y en a une qui est à l'est, Washington, la ville, et puis l'état de Washington, lui, il est complètement à l'ouest. Donc, il est même, il est sur le Pacifique, ouais, donc c'est le Pacifique. Donc, bon, c'est un peu, si on est nul en géographie comme moi, ça prête à confusion. Autrement, bon, on s'en arrange. Mais donc, l'autre pôle important de, du mouvement des Riot Girls, c'est Washington DC. Pourquoi? Parce qu'à Washington, vous avez, alors à l'époque dans les années 90, c'était une ville où les fonctionnaires riches, c'était travailler au centre dans les bâtiments, de l'État fédéral, et vivaient dans la grande banlieue, dans des espèces de compounds pour riches. Et au centre, ben, vous aviez beaucoup, énormément de noirs, énormément de pauvres, énormément de violence. C'est assez typique des villes américaines, mais à un moment on appelait Washington non plus la capitale fédérale mais la capitale du crime, parce qu'il y avait eu, je crois, 500 morts par balle en un an liés à des violences entre gangs. Ou...
Une bonne partie c'était les flics aussi.
Et il y a une bonne partie sans doute c'était les flics aussi, évidemment, comme toujours, mais bon, là, bon, c'est une ville plutôt violente, mais c'est une ville aussi dans laquelle vous aviez, ça c'est bien décrit dans le bouquin, des tas de gens qui étaient très très organisés politiquement. Et parmi ces gens-là, ben, il y avait une de nos idoles, on le prie tous les soirs quasiment, c'est Ian MacKay, Strategy, il a inventé le mouvement Strategy, mais il s'y reconnaissait pas trop. Mais bon, voilà, donc c'est pour ça qu'on boit pas, qu'on fume pas, tout ça, qu'on est des gens sains. Et c'est grâce à lui. Mais Ian MacKay, c'est aussi un type qui, lui et son groupe, Fugazi, c'est aussi un des premiers groupes à avoir fait une chanson féministe, d'un groupe de mecs qui avait fait une chanson féministe qui s'appelait Suggestion. Et c'est pour dont les paroles sont pourquoi est-ce que je peux pas marcher, en gros pourquoi est-ce que je peux pas marcher dans la rue sans que des mecs me reluquent, et ça avait beaucoup marqué les Bikini Kill qui avait écouté ça. Et Ian MacKay était tout à fait, faisait partie des, il leur a filé des sous, il leur a aidé à produire des albums, alors je sais plus trop quel groupe des trois, là j'ai pas retrouvé la référence, mais globalement c'était des sympathisants, et donc elles ont pu faire aussi pas mal de concerts à Washington DC. D'accord. Et là, le deuxième groupe, Slant 6, c'est justement un groupe qui a été diffusé par Discord. Discord, c'était la boîte de Ian MacKay. Donc vous aviez une espèce d'axe Washington DC, Olympia, dans l'état de Washington, qui fonctionnait. Et les filles faisaient des retours entre les deux, soit pour enregistrer, soit pour faire des concerts. Alors bon, le problème, c'était à Washington, elles étaient assez bien accueillies sur la scène punk, ce qui les étonnait parce qu'elles se faisaient insulter partout ailleurs, entre Olympia et même parfois à Olympia et Washington. Et donc, ça faisait partie des questions que je m'étais posées en entendant un petit peu Manon Labrie présenter son bouquin dans une librairie de Saint-Denis. C'était que justement, le milieu punk hardcore était plutôt un milieu viriliste. Et donc, comment est-ce qu'on peut se faire accueillir en étant une femme? Ben voilà, la réponse, ça dépendait des endroits où vous alliez. À Washington DC, dans les bons endroits, vous pouviez être très très bien accueilli. Entre Olympia, sur la côte ouest, et Washington, ben vous pouviez vous faire insulter, vous faire frapper, et tout genre de trucs sympathiques. Parce que la scène était pas forcément très très sympa. D'ailleurs, il y avait ça avait donné lieu à quelque chose dans les concerts, les filles du bikini ou de Bratmobile disaient girls to the front, donc les filles devant, parce que globalement leur idée c'était que si un connard vous emmerde dans le pogo ou au fond de salle, c'est pas à vous de gérer ça toute seule, il faut le gérer en groupe. Et donc si vous êtes devant et que vous êtes toutes réunies, vous pourrez le gérer en groupe et pas vous faire emmerder par un connard. Donc voilà deux trois choses là-dessus. Et on va continuer. On va écouter maintenant des groupes qui découlent du mouvement Riot Girl et qui ont souvent des membres qui viennent des trois groupes initiaux, la Bikini Kill, Events to Betsy et Bratmobile. Voilà, donc on va écouter le Tigre.
You're getting older now, I am too. Take a place in Big City with nothing left to do. I wanna take you to Big City, a place we both can be. You're getting older now, I am too. Take a place in Big City with nothing left to do. The river runs hot and the river is free. Dip your own cup in and have a drink with me.
Jeudi Noir sur Radio Libertaire, donc c'est ma dernière intervention. Après, je laisserai la musique jusqu'à la fin. Donc, vous pouvez trouver tous les morceaux, toute la liste des morceaux, donc sur Gurdulu, comme d'habitude. Vous tapez Jeudi Noir, Gurdulu, et vous tombez sur toutes nos émissions. Voilà, donc là, vous venez d'entendre deux morceaux. Un morceau du Tigre, de Le Tigre, faudrait dire. Un morceau qui a été intitulé officieusement Riot Girl, donc avec Cathy Nana, la chanteuse de Bikini Kill. Et ensuite, vous avez entendu The Peaches, Beer City, avec Molly Newman, qui était batteuse de Brat Mobile. Voilà, donc les filles, elles ont continué. Quand les groupes ont cessé, ben elles ont poursuivi de différentes manières. Et globalement, enfin, d'après ce qu'on sait, quelques-unes qu'on a pu suivre, elles sont restées pures et dures, comme il faut, bien. Donc voilà. Et je voulais terminer un petit peu sur un manifeste justement de Kathleen Anna. Riot Girl, c'est parce que nous les filles avons terriblement besoin de livres et de fanzines et de disques qui nous parlent, dans lesquels nous nous sentons incluses et que nous pouvons comprendre dans nos propres termes. Parce que nous voulons faire que ce soit plus facile pour les filles de voir et écouter nos travaux mutuels pour partager des stratégies et se critiquer ou s'applaudir. Parce que nous devons nous approprier les moyens de production pour pouvoir créer nos propres significations. Parce que nous jugeons que la fantasmagorie de la révolution instantanée macho avec des flingues n'est qu'un mensonge irréalisable, destiné à nous laisser rêver, plutôt qu'à devenir notre rêve. Et que donc nous cherchons la révolution dans nos propres vies, chaque jour en imaginant et en créant des alternatives à la manière chrétienne merdique et capitaliste de faire les choses. Parce que nous voulons et avons besoin d'encourager, d'être encouragés face à toutes nos insécurités, face aux rockers garçons de bedonnant de bière qui nous dit qu'on ne sait pas jouer de nos instruments. Face aux autorités qui disent que nos groupes, zines, sont les pires des États-Unis et qui attribuent toute validité et succès de notre travail à une hype de filles qui prennent le train en marche. Parce qu'on ne veut pas s'assimiler aux standards d'autres garçons qui établissent ce qui est ou ce qui n'est pas de la bonne musique ou punk rock ou de la bonne littérature, et que donc on doit créer des forums où on peut recréer, détruire et définir nos propres visions. Parce qu'on ne veut pas fléchir sous les accusations selon lesquelles on est des sexistes inversés réactionnaires et non pas les vraies âmes punk rock militantes que nous savons que nous sommes pour de vrai. parce que nous savons que la vie c'est bien plus que la survie physique et avons pleinement conscience que l'idée punk de « tu peux tout faire » est cruciale pour la révolution rock des filles en colère qui se préparent et qui tend à sauver des vies psychologiques et culturelles de filles et de femmes partout, selon leurs propres termes, pas les nôtres. Voilà, donc je vous ai pas tout lu, José veut dire un mot.
On peut préciser que juste sexiste inversé, ça n'existe pas. Hein. Oui. Voilà. Faut le...
Mais justement, elle conteste l'accusation qu'on leur fait. Tu vois, les trucs genre vous êtes des sexistes inversés. Bon, c'est comme.
C'est pas évident pour tout le monde.
C'est comme le racisme blanc. Bon, on s'en fout un peu. Anti-blanc, ouais, le racisme des blancs existe. Le racisme anti-blanc, ouais, il existe aussi sans doute, hein, mais on s'en fout. Alors. Il est tellement dérisoire. Voilà, donc maintenant on va écouter tout un tas de groupes qui sont pas forcément Riot Girl à proprement parler directement, mais qui appartiennent à la mouvance dans les années 90. Voilà, à plus tard pour une autre émission.